Ellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As it is possible, Lenny Wilkins leads the four.
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphique 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est également présent sur Facebook et Instagram. Et on va même tenter sur YouTube prochainement. Enfin, on vous dira. Hein. N'hésitez pas à nous y rendre visite. Alors justement, si vous voulez découvrir notre nouvelle chaîne YouTube qui est en fabrication hein, là actuellement, vous tapez sur YouTube Money Time, tout collé mais avec une majuscule à M et à Time, tiré du 6, 6KU. Et vous aurez le privilège de voir nos belles gueules. Enfin, les belles gueules, je ne garantis rien. Par ailleurs, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en streaming sur www.graphite.net et même la podcaster sur podcloud.fr en tapant Money Time. C'est assez logique. Alors aujourd'hui, on vous a préparé une émission à base de questions. On passera bien sûr par nos traditionnelles rubriques, hein, rubrique actu, où on parlera d'Oliver Miller, de March Madness et de hit déconfiture plutôt que de hit culture. Un petit retour sur les matchs de la nuit et la victoire du Small Ball. Notre gros dossier du jour, comme on vous l'a dit, c'est l'arrivée du printemps qui se profile et la fin d'une longue saison régulière avec l'arrivée des choses sérieuses. Jimmy Butler est tout content et nous, on se pose cette question fondamentale. Et puis bien sûr, Money Time se termine toujours par un buzzer beater. Et aujourd'hui, qui mérite le titre de MVP ? On rappelle que MVP, ça signifie Most Valuable Player, le meilleur joueur de la saison. Et spoiler, on hésite entre deux mecs. Messieurs, ça va ? Tout va bien ?
Salut les potos !
Ça va ?
Salut !
Salut ! Alors, voici la team construite pour animer cette émission, hein, une équipe de fous. Mais en lien avec le printemps, il est jeune, il bourgeonne, et ça n'est pas que dû à l'arrivée du printemps. Il sera notre responsable visio ce soir. C'est Mathéo. Salut Mathéo.
Salut.
Ça va ?
Ouais, ça va.
À l'approche du printemps, il verdit et sent le trèfle fraîchement coupé. Et il rêve de back-to-back avec les Celtics.
Tu sens.
Salut Bruno.
Salut.
Cette année, en ce mois de mars, j'ai pas compris ce qui se passait, c'est pas grave. Il est content aussi. Il ne passera pas le mois de mai à scruter la draft, car il va redécouvrir les playoffs avec les jeunes Pistons. Ouais. Mehdi est dans la place.
Salut les potos. Eh oui, les Pistons, ils font plaisir.
Et puis à chaque fois, c'était pour avoir le cinquième choix de draft, en plus en ayant le plus mauvais bilan.
Ouais, ils ont arrêté du coup. On va jouer au basket du coup, ils sont dit. Et justement, à l'inverse, en ce mois de mars, au contraire, ils souffrent en assistant impuissant au coup de froid d'un Miami Heat qui porte très mal son nom, avec un bon rhume des foins, une allergie à la gagne. C'est Wham. Salut. Applaudissements pour Wham. Ouais. Bien messieurs, alors pour ne pas tarder, puisqu'on a un beau programme, on va commencer tout de suite par la rubrique Actu. C'est parti. Alors dans notre rubrique Actu, on vous le dit tout de suite, on parlera pas de la fin de saison annoncée de Paul George, hein, qui après celle d'Embiid vient entériner le fiasco Sixers. Don't trust the process.
T'as vu, je dis rien. C'est, oh c'est pas comme si je l'avais dit au début d'année, mais.
Non, non. Ah bah oui, c'est quand même.
La fin de saison de Paul George. Est-ce qu'elle a commencé la saison de Paul George?
Bonne question. En tout cas, on ne parlera pas non plus, je vous le dis, de Doc Rivers qui se rapproche du nombre de victoires en tant que coach, hein, de Phil Jackson, le légendaire sorcier des Bulls, puis des Lakers. Et bizarrement, en termes d'impact, de palmarès et de crédibilité, il y a un léger gap entre les deux.
Parle moins. Hein, c'est...
Ouais, ouais. Entre le Doc et le Master Zen. C'est un très bon titre de série, ça, d'ailleurs, non ? Doc, le Doc et le Master Zen. Non, c'est pas mal. En tout cas, voilà, on ne parlera pas de ça. Par contre, c'est parti pour évoquer les différents sujets. On va commencer avec une nouvelle qui n'est pas très rigolote. Hein, c'est le décès d'Oliver Miller, qui nous a quittés. Celui qu'on surnommait Big O, et qui avait peut-être prodigué quelques conseils en diététique à Zion Williamson, est parti beaucoup trop tôt, à 54 ans, des suites d'un cancer. C'est une triste nouvelle. Alors, il est connu surtout, alors il n'a pas fait une carrière exceptionnelle, Oliver Miller, il est surtout connu pour sa période avec les Phoenix Suns de Charles Barkley. Barkley, hein. Voilà, à l'époque Barkley, Kevin Johnson, Dan Marley et Richard Dumas. Un autre destin tragique d'ailleurs des Suns de cette époque. Il partageait la raquette avec Mark West, aussi un gros molosse. Et à l'arrivée du Shaq, puisque ça correspond à peu près à l'arrivée du Shaq dans la Ligue, c'était un des seuls joueurs en capacité de dîner avec, en tête-à-tête avec lui.
Voilà. Il fait partie des joueurs qu'on appelle des frigos. Voilà. Ouais, les mets dans la raquette. Ouais.
C'est ça. Alors, ça bouge, il avait des bonnes mains, tout ça, mais après, c'est vrai qu'il a eu des gros, gros problèmes de poids et qui ne sont pas que dus, je pense, à une hygiène de vie dégueulasse. Je pense qu'il avait vraiment un problème hormonal. Voilà. Et donc, c'est une triste nouvelle quand même, parce que 54 ans, c'est pas vieux. Enfin voilà, c'est une page de. Enfin, c'est aussi un des joueurs qui a marqué l'histoire des Suns, même si statistiquement, c'est pas un monstre. Mais voilà, je voulais lui rendre un petit hommage. On passe à la rubrique Catastrophite. C'est le jeu de mots pourri que j'ai trouvé pour illustrer la période de marasme que traverse Miami et qui me consterne au point que je peux très bien claquer la porte à la moindre vanne, première boutade ce soir, les gars.
Non, Miami, ils ont quand même un sacré avantage, c'est qu'ils arrivent à relancer des joueurs, des mecs qui auraient pu beaucoup, et là, ils sont allés jouer au Heat. Genre Bogdanovic, il est allé au Heat, il a mis 30 points. Et depuis ce temps-là, il met 20 points tout le temps. Il y a eu une capacité à le relancer, je pense qu'ils peuvent le
relancer. Il y a une époque où ils muselaient les gens, mais là, c'est visiblement, ils leur permettent d'exprimer leur potentiel. En tout cas, même Spoelstra n'a plus les mots. Hein, le Heat a perdu son mojo et il a été transféré
Ils sont à 8 défaites de suite, là.
Ouais, et c'est je crois que c'est la plus longue série, en fait, depuis qu'il est arrivé.
Depuis 2008.
C'est ce qu'il a... à Miami, quoi. Ouais. C'est jamais arrivé, en fait.
Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne trouvent pas de solution. Parce que. Il pourrait jouer différemment, en fait, avec Adebayo dedans et jouer petit.
Adebayo, il est complètement...
Ah, il est cramé. En fait, il est
tombé. Écrasé, hein.
Comme quoi, Butler avait peut-être un impact beaucoup plus important que...
C'est là qu'on voit l'absence, quoi. Ben, c'est le manque...
Justement, Butler est parti avec son mojo, transféré à Golden State. Miami pointe désormais la 10e place de sa conf. Et à ce rythme fou, on n'est pas loin d'être en position de choper Cooper Flagg, là, à la fin, en juin prochain.
Il n'y a quand même pas beaucoup de pourcentage. Hein.
Va falloir y aller, là.
Ouais, mais bon, c'est
ils ont 4, je crois, 4%.
Vous diriez quoi, les gars? On en parlera après, mais est-ce qu'ils doivent tanker, là?
Non, c'est trop tard.
Ouais, c'est trop tard.
Non, puis ce n'est pas une franchise qui tanque.
C'est jamais pas trop
tanker,
le genre de la maison.
Dire, ça...
Perdre, faire exprès de perdre.
Ah ouais. Non, je
sans trop que ça se voit non plus.
Parce que sinon, tu prends une pénalité. Comme Utah, ils ont pris 100 000 dollars.
Ça se voyait trop.
Ça se voyait trop.
Il y a un moment...
En fait, pour nos auditeurs, tu tankes dans l'espérance d'avoir un mauvais bilan et d'avoir plus de chances, de probabilité d'avoir un bon choix de draft.
Et c'était encore plus flagrant avant parce que vraiment, les derniers avaient vraiment un pourcentage vraiment supérieur aux autres pour choper les premiers choix de draft. Maintenant, s'est un peu rééquilibré.
Ils ont régulé parce que c'était...
Ça fait que l'année où même les Spurs prennent Wemby, je crois qu'ils ont que 7% de chances de l'avoir.
Oui,
les trois derniers de la Ligue en victoire-défaite, en fait, ils ont 14% chacun. Et okay, après, ça descend. Plus tu gagnes de matchs et plus tu descends. Ça veut dire que OKC, ils n'ont pratiquement aucune chance. Je crois qu'ils ont 0,3% de chance.
Déjà, quand tu es playoffable, en général, tu as quoi? Tu as 1% de chance de l'avoir.
Mais
en
les Spurs, encore cette année, ils sont encore pas si mal avec la chance qu'ils ont. Parce que c'est l'inverse de Détroit, là, quand Chambre et Mehdi au début.
Eux, ils le prennent souvent.
Ouais, ils prennent souvent les bons picks.
Philadelphie, il a eu 2 années de suite, je crois. Mais ils ont chopé Markelle Fultz avec
Ben
Simmons.
Et puis Ben Simmons,
Ben Simmons, c'était pas le premier choix, je crois pas.
Aussi, je crois.
Bruno,
peut-être dans les premiers.
Ah ouais.
On peut regarder. Oh, mais ouais.
Bon, tu regarderas, Bruno nous dira après.
Mais sinon, pour revenir sur Miami, je pense qu'ils vont rester 10e ou ils vont reprendre la 9e place. Ils vont aller faire les play-in. Bon, après.
Moi, je ne vois pas sortir du play-in cette année, honnêtement. Puis pour faire quoi? C'est-à-dire que derrière, c'est Cleveland ou Boston? Il n'y a aucune chance. Aucune chance dans aucun monde.
Et tu pourtant, vas prendre 4-0, tu vas prendre 4-0, c'est ouais, tout. Bah, il faut y aller.
Ouais. Non, il faut pas y aller pour faire ça.
Ben Simmons. Qu'est-ce qu'il a été? Premier tour de draft.
Ah ouais, premier
2016.
Choix. Ah d'accord, ok.
Sélectionné par les Philadelphia.
D'accord. Et donc ils ont chopé Embiid qui était premier aussi, je crois.
Les rookies de l'année quand même.
Ouais. Bon, on en reparlera plus tard. Ok, on passe justement à la draft et au prodige de Duke, Cooper Flagg, dont on n'a pas parlé encore dans cette émission, qui fait saliver tous les cancres de la ligue, de Utah à Washington en passant par Charlotte et peut-être Miami, donc, comme j'ai dit.
Et qui s'est fait la cheville.
Mais qui s'est blessé justement avant d'aborder la March Madness. Alors, la March Madness, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la phase finale du championnat universitaire américain, la NCAA. Et donc, c'est pourquoi on appelle ça la folie de Mars, parce que. En fait, à la différence des salles NBA qui sont quand même très standardisées, très ouais, public, famille, etc.
Très polissées.
Très ouais. Polissées. C'est un terme précis, c'est bien.
Ouais.
Ouais, c'est le vocabulaire.
Pointu.
J'ai mal au crâne.
Et donc, en fait, à la différence justement des salles NBA où voilà, il n'y a pas énormément d'ambiance à part au KC, il y a d'autres salles, hein, on en a déjà parlé. Mais les salles universitaires, c'est que des jeux.
C'est, ah, c'est bouillant. C'est ouais. Des étudiants, c'est bouillant.
C'est, ouais, c'est vraiment.
C'est même dur d'avoir des places hein, dans les grosses facs et tout, c'est compliqué.
Et c'est blindé, hein, attention, hein, c'est pas des petites affluences de 3000 personnes. Hein, c'est des, il y a des matchs qui jouent à 3000
personnes.
Et March
Madness, l'intérêt aussi, c'est que c'est un peu la seule compétition à élimination directe, quoi.
Ouais, tu en un match, voilà.
Les salles, elles sont plus remplies en universitaire ou en NBA?
Plus en universitaire.
En pourcentage, c'est
universitaire. Quand tu passes en match Madness, ouais. Ouais, là, c'est.
En pourcentage de remplissage, c'est plus en universitaire. Par contre, les salles NBA sont beaucoup plus grandes.
Ouais. C'est un peu comme le foot américain, c'est ouais. Ils ont ouais. La même culture, c'est la culture universitaire du sport quoi,
voilà.
Aux États-Unis.
C'est très, très particulier. En tout cas, on ne sait pas si Cooper Flagg sera remis pour aider son équipe, hein, Duke, si elle parvient à passer les premiers tours. Et nous, on aimerait bien voir ce que donne celui qu'on surnomme le Kevin Durant blanc au Final Four, c'est-à-dire dans les 4 dernières équipes. Puisque...
Élevé avec des VHS de.
De moi.
De.
Ah. Non.
Non. Non, il était dans le Maine.
De Durant
non, il a été élevé avec des VHS de Larry Bird.
Ah oui, c'est vrai.
Papa, maman étaient basketteurs, ils étaient fans de Larry Bird et ils l'ont.
Là, il a claqué, il a réussi à claquer son.
Ça va.
Allez, ouais. Allez, placer celle-là.
Ok.
Il y a pas l'alarme là.
Ah oui,
l'alarme.
Pas l'alarme. Pardon, c'est pas un terrain. Ok, justement, alors, on parle de March Madness, on parle d'universitaire et malheureusement, la. Nouvelle pépite française de Stanford, Maxime Reynaud ne prendra pas non plus part à cette phase finale. Il a été éliminé d'un point.
Ah, il perd moche en
première seconde.
Ah, il perd de moche parce que c'est un lancer franc. Donc il y a un point qui de différence qui revient. Ils sont tous hors bon. Il y en a un point qui l'attrape.
Il tombe dans les mains.
Ça lui retombe dessus. Ouais, quoi.
Et l'autre,
il shoot les yeux fermés dedans. Et là, tu fais.
Alors c'est dommage, hein, ils se sont fait sortir donc par Louisville après une belle saison individuelle en quart de finale du tournoi ACC. Hein. C'était le seul joueur du pays, Maxime Reynaud, à afficher, vous le saviez, plus de 20 points et plus de 10 rebonds.
Ouais, il est annoncé en deuxième tour de draft.
Ouais, fin de premier tour, j'ai vu aussi, c'était possible.
Ouais,
2026 parce qu'il a fait ses 4 ans universitaires et c'est pour ça qu'il est plus...
C'est un pote à Wemby.
Il est plus... Ouais, mais
Maxime
est...
Reynaud.
Ouais. Ouais, il est Charenton aussi.
Oui, Charenton.
Ouais. Et Charenton. Bah, le problème, c'est que, ouais, voilà, comme dit Mehdi, c'est qu'il est trop vieux, apparemment, selon les standards de la NBA, quoi.
Non, il n'est pas trop vieux. Il a fait ses 4 ans universitaires.
Ouais, mais voilà, pour eux, il arrive déjà un peu
ouais,
tard.
Mais il arrivera peut-être plus fini que les autres, quoi.
On l'a vu, hein, des mecs comme Rémy Rakez. Par exemple, qui est venu après la fin de son cursus, qui devient très très rare. Après ces 4 ans, ils arrivent, les gars, c'est des hommes, quoi. Ils étaient NBA ready. Déjà.
D'ailleurs, Cooper Flagg a peut-être dit que.
Il n'excluait pas.
Ouais, il n'excluait pas de rester un an de plus si il gagnait pas cette année. Là,
disons que s'il tombe sur là-bas. Utah, Nouvelle-Orléans ou quoi.
Ouais, bah il peut dire.
Bah, il plantera sa carrière comme tous les mecs qui ont signé. Bah,
vous êtes sûr là.
faut se rappeler l'image de Wemby quand on lui a annoncé qu'il allait pas à Houston quoi. On le voyait, on voyait les images.
Ah, pourtant, aujourd'hui, Wemby à Houston, ça aurait de la gueule. Hein,
le... Ah ouais, mais à l'époque, quand il a été drafté, c'est vrai que personne ne voulait y aller.
Ouais, c'est vrai. Et enfin, bon, pour rappeler simplement, la March Madness, hein, c'est 32 équipes qui se qualifient en fonction des résultats obtenus en saison régulière. Mmh. Et les autres, une partie des équipes qui reçoivent une invitation par un comité de sélection. Vous le saviez, ça?
Non.
Donc c'est un peu la tronche du client, c'est sympa. Toi, je t'aime bien, non.
Disons que les grosses universités, s'ils n'arrivent pas à se qualifier, ils ont des wildcards.
Alors, du coup, là, par exemple, Stanford, qui est... Alors, c'est une tronche, hein. Maxime Lennon, on n'a pas parlé. Ouais. C'est intellectuellement,
le mec... Il veut être cosmonaute, le gars.
Stanford, c'est pas une université de merde. Hein. C'est-à-dire, c'est...
Bah, ils n'ont jamais été...
UTC de Compiègne.
Ouais, c'est ça, c'est... On va le dire. C'est du haut de gamme, ouais.
C'est du haut de gamme. Voilà. En tout cas, on suivra, on va essayer de suivre un peu la marche.
Et ça aussi, par contre, c'est un critère important pour les franchises. Ils regardent souvent si le mec est intelligent. Intelligent au sens...
James Harden.
Ouais, mais là, il était James fort. Il était trop fort au basket.
Ah oui, pardon.
Pour que ça...
Balle perdue.
Ouais.
Ok.
T'as vu le mouvement qu'il fait cette nuit aussi sur...
Ouais. À mon avis, il a dû prendre trop de vent parce qu'il en revenait pas.
Oh là là.
Oh là là, j'arrive encore à aller aussi vite. Et sans claquer.
Justement, vous allez pas me parler de ça puisqu'on va parler des matchs de la nuit. It's a two-point lead for the Warriors. Heat need a three to win. 10 seconds left. Wade against Iguodala. 5 seconds left. Waiters back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Back it in. It counts. It counts. The Heat win the game. Dwayne Wade won it for Miami. Ça me fend le cœur d'entendre ça. Ouais, c'est vrai, on y a droit là. Ok, soirée light en NBA cette nuit avec 4 matchs seulement, mais avec un thème qui aurait pu être le small ball fonctionne pour Golden State et les Clippers hein, dont vous parliez. On va juste parler vite fait d'Atlanta qui a fait son affaire contre les Hornets. Hein. Les uns veulent gagner, les autres veulent perdre, tout le monde est content.
Ouais, mais tu vois, ils sont plus discrets. Charlotte, ils arrivent à passer, c'est du tanking.
Alors, enfin, Charlotte, ils les avaient tous mis sur le banc. Quoi. Ouais, pour jouer contre Atlanta, ils les avaient tous mis. Ouais.
Et
il a fait un bon match, Lamelo Ball.
Mais non, il n'a pas joué.
Il n'a pas joué. Zachary Risacher en profite pour finir bien la saison. Et avec lui, son dauphin Alex Sarr aussi, qui termine très très bien. On rappelle qu'ils étaient numéro 1, numéro 2 de la dernière draft, hein, qui est quand même jusqu'à preuve du contraire, une draft bien pourrie quand même.
On peut peut-être quand même avoir encore un Français rookie de l'année.
Ouais, c'est pas exclu. En tout cas, ils ont le vent en poupe et ils profitent de leur fin de saison pour s'illustrer. Donc, c'est plutôt une bonne chose.
Hein, et Risacher, vraiment bien.
Ouais, c'est pas mal.
De mieux en mieux à se démarquer. Et le truc qui fait la différence, c'est qu'il est, il a des pourcentages au shoot qui ont complètement augmenté.
Que grimper.
Là, depuis le début de l'année, il est presque à 50% au shoot, ce qui est vraiment bien. C'est vraiment bien.
En plus, le départ de DeAndre Hunter lui a fait de la place, donc plus de responsabilités. C'est bien d'envoyer ce signal-là quand même à un numéro de draft.
Ça et moins de pression, quoi. Il n'est pas quelqu'un qui lui pousse.
Toujours dans les petites équipes, Boston a chopé sa 50e victoire de la saison. Sans CJ Brothers, hein, Tatum et Brown, qui était entre.
Tu crois que ça tanque aussi là un peu?
Ça tanque un peu, ouais.
ça commence à se voir.
Et derrière, alors.
Et ils se sont fait peur hein, contre Brooklyn. Brooklyn, à un moment, ils ont 10 points en avance.
Perte de 8 points, en fait.
Et derrière la perf.
Il a été obligé de sortir quand même un gros match. Hein.
Sortir un rookie de.
Alors, le rookie a connu au bataillon Baylor Sherman.
Et 20 points.
20 points
en 16 minutes.
3 points.
En 16 minutes.
En 16 minutes. Alors, pour tout ça, pour écarter des Nets, vous avez remarqué, ils sont quand même très accrocheurs. Il y a beaucoup d'équipes qui en chient pour battre les Nets.
Bah, tout à l'heure, tu disais, est-ce que les gens, ils tankent? Non, Brooklyn, ils ne vont pas faire les play-in, mais ils jouent tous leurs matchs à fond.
Ouais.
Moi, j'aime bien. Et c'est le coach, c'est un Espagnol qui est là-bas, et il ne veut pas tanker.
Fernandez.
Il veut vraiment faire progresser cette franchise.
Et pourtant, il y a un effectif de tourneur Fraser, hein. Les gars.
Il y a Cameron, quand même.
À part Cameron.
Il a quand même des mecs qui savent mettre.
Il n'y en a pas beaucoup.
Ils n'ont pas fait jouer Tatum au match.
Non, ni Tatum ni Brand. Porzingis, par
contre. Jeune avec leur porzingis.
Je suis concentré sur les stats.
D'accord.
Porzingis rejoue.
Ouais, et il semble revenir en forme au meilleur moment.
Avec son virus.
Il a pris 13 rebonds.
Son virus qui n'était pas. Soi-disant qu'il avait un virus qu'ils n'arrivaient pas à identifier, machin.
Ça s'appelle un rhume.
Ouais. Toujours
un peu bizarre. C'est toujours pareil avec Porzingis. Tu sais qu'il va être en forme et qu'il va être là, donc il va te faire des stades et tout. Jusqu'à un moment, il va se plier la cheville, il va se faire mal au dos.
Ouais.
On par contre, moi. Cette année, s'il n'est pas là, ça va être très très compliqué pour Boston. Hein.
Surtout si c'est la finale de conf qu'on attend.
Ouais. Bon, bah, là, Cleveland, petit warning, hein, ça fait deux matchs qu'on les voit.
C'est vrai que c'est pas.
Ça joue moins bien. Et...
Je pense qu'ils se relâchent aussi.
Peut-être un peu. Après, ils ont affronté des équipes. Là, on va en parler juste après. Mais on va commencer par, avant de passer, parler du Cavs Clippers de cette nuit, le Golden State de
Butler.
De Stephen Curry.
qui était au
repos. Privé donc d'un certain Stephen Curry, qui a levé les doutes quand même sur sa capacité à gérer les gros dossiers intérieurs. Parce que moi, avant le match, je me suis dit, ça va être un bon test pour savoir si. Ils sont capables de gérer un Jokic et parce qu'ils avaient quand même affaire à la paire Lopez Antetokounmpo à qui il rentre quelques centimètres quand même. Le plus grand, c'était Draymond Green avec 2m03, je crois. Je suis même pas sûr qu'il fasse 2m03 Green.
Il fait même plus, non, Draymond Green.
Il est pas si grand.
Ah ouais.
En tout cas, ils l'ont fait, ils ont géré et avec la manière. Alors Green a scoré 3 points à 1 sur 6, mais il sort 10 rebonds, 2 steals et 4 blocs. Et il a complètement, enfin moi j'ai regardé le match, il a complètement éteint Greg Freak. Hein. L'autre, il lui est rentré dans le lard, il bougeait pas. Donc,
Kuminga aussi qui a fait un bon match, je crois.
Match honnête, ouais.
En défense.
Mais en tout cas, Lillard et Antetokounmpo finit à 5 sur 16, à 20 points. C'est quand même pas courant.
Non, mais si tu veux, ils sont moins grands que les autres équipes. Mais par contre, ils sont durs. Hein,
et l'intensité.
Ils sont physiques, hein. Ouais. L'intensité. Les mecs, ils sont épais quand même. Hein. Ouais. Même Podziemski, il y a de la chair.
Il est tanké. Hein,
il est bon, lui.
Il est bon, lui. Hein. Il défend bien.
Non, mais Kuminga, c'est un monstre.
Guy Santos, ils sont pas mal, les joueurs. Comment il s'appelle, Quentin Post, là, leur pivot, là, qui s'éloigne et qui shoot à 3 points. Bon, en tout cas, Lopez, il a fait un bon match. Hein, il a shooté loin avec succès. Mais quand ton meilleur joueur, c'est Kyle Kuzma.
Et il a beaucoup planté à 3 points, je crois, Kuzma. Il a combien, 3 points ?
Oui, il a mis 18 points, je crois. Enfin, il a fait un bon match, Kuzma.
Ouais.
Mais finalement, en fait, on s'est rendu compte que le duo, en fait, les Bucks, si Antetokounmpo et Lillard ne sont pas à fond... C'est
toujours Yanis qui porte les Bucks. Hein.
Toujours. Voilà,
mais à l'Est, va y avoir le challenge hein, pour entre les Bucks, les Pacers et Détroit, savoir qui va finir 4-5. Ils sont tous à un match et c'est vraiment bien.
Ouais, bon, on en parlera juste un peu.
J'en préfère une que les autres, mais.
On saura pas laquelle. Ouais. T'as pas le droit de dire un nom.
Non.
Utah.
Ouais.
T'aurais envie d'un petit Knicks Pistons
ça. Ah oui, moi, c'est.
Au premier tour.
Moi, j'attends que ça.
Dès le premier tour.
Knicks.
Ah, je sondais sur le Facebook de la Knicks Nation, là, qui est pas mal. Ouais. Tout ça, ils disaient, on va se taper Utah. Utah, c'est à cause de toi. Détroit. Et franchement, les fans des Knicks, ils disaient, c'est pas un super tirage, quand même. Tu vois, ils sont pas.
Mais le vrai duel qu'il faudrait. C'est Indiana-Détroit. Ah, ça serait top. Ils peuvent pas se blairer les deux franchises. Là.
Indiana, ils peuvent pas blairer grand monde.
Ouais. Ah, puis là, c'est Indiana, bien. On continue à se faire expulser des joueurs.
Ils ont du passif avec
tout le monde. C'est génial. Ça met des tartes. C'est formidable.
Justement, ça, alors, pour sur le match de cette nuit, c'est ce bon vieux Jimmy Butler hein, qui nous a sorti un match de patron. 24 points, 8 rebonds, 10 passes. La matrice, à la fin, a complètement confirmé son talent de maître à jouer en fin de match, là où il a laissé un champ de ruines à Miami. Et à l'approche d'avril, c'est un peu flippant quand même pour la concurrence, qu'on connaît l'animal de la vacre, le Thunder, peut-être pas, mais en tout cas...
Je pense qu'au premier tour, il n'y a personne qui va vouloir de Golden State.
Personne ne va choper Golden State.
Ils vont à l'écrou en plus. Hein.
Non, mais entre Golden State, les Wolves et les Clippers, là, t'as c'est 6-7-8.
Non.
Et n'empiète pas sur la prochaine rubrique.
D'accord. 5, voilà. 6, 7. Non.
Enfin, on se demandait tout ce que vaut vraiment l'autre équipe de LA. Eh bien, elle va plutôt mieux. Deuxième défaite de suite pour les Cavs hein, qui ont affronté peut-être le pire profil d'équipe pour eux. Censé avoir un gros avantage à l'intérieur avec la paire Mobley-Jarrett Allen. Eh bien, ils ont passé la soirée à courir après Kawhi Leonard hein, pour le premier, 33 points. Et pour l'autre, à prendre l'impact d'un étonnant quand même Zubac qui fait une super saison, on n'en a pas parlé. En double-double, 28 points, Varbon, ça va. Et on n'oublie pas non plus le sixième homme dont tu as parlé tout à l'heure, hein, Bogdanovic, qui est quand même l'ancien meilleur joueur d'Euroleague. Mmh. 20 points, 8 sur 8. Ouais, c'est propre.
Un Kawhi qui revient, ouais. Harden qui reste à son niveau. Ouais, les Clippers, ils vont pas être non plus.
Powell a du mal à revenir où il était. On sent quand même que quand Kawhi est là, Powell, il baisse quand même en, de niveau.
Mais moi, la conférence Ouest, là, les playoffs, mais je les attends avec impatience. Hein. Du 1 au 8, ouais, c'est que du lourd. C'est que du lourd.
Ouais, c'est pas comme à l'Est où c'est les.
Ouais, il va y avoir des matchs un peu en bois. Mais alors à l'Ouest.
Ouais, exactement. En tout cas, on a hâte de voir ça. Et justement, comme on va parler après questions cruciales, on aura l'occasion d'évoquer un petit peu toutes ces questions que vous avez un petit peu soulevées. On fait une petite pause musicale avec un morceau que j'ai pas pu vous mettre la dernière fois, mais qui est vraiment bien.
On parle pas de Cleveland, alors.
Vous écoutez Money Time sur Radio Graphite 94.9, une émission basée sur le partage, la bonne humeur, la convivialité, bref, une vraie soirée raclette. Allez, on enchaîne. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à Questions pour du pognon. Vous connaissez le principe, des questions, des réponses. Tout de suite, je vous présente notre candidat gagnant d'hier, tout nouveau celui-ci, c'est Hugues Perrault de Fournois. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir. Je suis étudiant, je poursuis à la fois des études de géoethnie à Paris 13 oui. et également une formation scientifico-économico-poterie bien. À Paris 16.
Oui.
Et actuellement, je termine une thèse journalistique sur la joie de vivre, ou les interrogations d'un intellectuel dépressif allemand qui vit actuellement reclus dans une cave de la banlieue de Wirtshafen.
Parfait.
C'est une ville dortoir près de Hambourg. Oui. Et c'est un homme remarquable que j'ai rencontré lors d'une soirée du réveillon organisée par Marguerite Duras et Alain Cuny.
Très bien. Je vous souhaite bonne chance.
Merci, Julien. Merci.
À tout à l'heure. Pas de pognon à gagner aujourd'hui, hein, mais comme on vous l'a vendu en début d'émission, on sera plus sur une question pour une fin de saison. Alors justement, messieurs, on a choisi sept bonnes questions, hein, parce qu'elles portent un peu dans leurs réponses tous les enjeux du dénouement de la saison 2024-2025. Et on commence, messieurs, par les Lakers. Alors, les Lakers, fin de saison en trompe-l'œil ou nouveau contender assumé, messieurs?
C'est difficile d'avoir un avis sur les
Lakers. Pas à dire ça. Non. Oui ou non? Oh, pardon. Ouais. Non, mais c'est vrai que les Lakers, pour refaire un peu le topo, depuis l'arrivée de Doncic, c'est devenu une machine à gagner. James s'est blessé, ouais. Ça bafouillait un petit peu. Puis là, maintenant, on commence à se dire, on voit quand même que l'équipe est un peu. Je me demande si elle n'est pas un peu en sur-régime, non?
Bah ouais, faut que
Austin Reeves est à 30 points de moyenne.
Bah voilà, faut que voilà. Reeves et Doncic y mettent 40 points chacun pour arriver à gagner des.
Est-ce
des
que matchs ça fait deux quand même, malgré tout, un potentiel sur.
Mais c'est comme.
Non, moi je pense pas.
Comme toi, tu crois pas, tu crois pas en contender, toi?
Personne ne veut les prendre au premier tour.
Moi je pense, ouais, je pense que c'est le Thunder qui va.
Ah ouais, mais il va y avoir des matchs avant quand même.
Oui,
là, ouais, ils vont jouer
sais,
soit
les Lakers, ils peuvent espérer quoi?
Moi je pense qu'ils peuvent passer le premier tour. Parce qu'ils ont quand même des phénomènes dans leur équipe.
Ouais, c'est ça.
Ils vont peut-être passer un tour de play-off après la demi-finale. C'est, en fait, eux, le problème, c'est l'enchaînement qu'il va y avoir.
Ouais.
Et est-ce que LeBron il va réussir à enchaîner
des
gros matchs?
Un des plus mauvais plannings de fin de saison. Quoi. Au niveau enchaînement des matchs, ouais. Ils ont un des plus mauvais programmes.
Non, mais ils vont peut-être finir 5-6.
Bah là, toi, en l'état, ils jouent les Grizzlies.
Ouais.
Mais
il
y a quelques jours, ils étaient deuxièmes. Hein. Ils étaient deuxièmes et tout le monde disait oh, les Lakers, c'est génial, en fait ça marche et tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu tôt pour se palucher. Ouais. Pardon.
Mais après, ça va dépendre aussi de leur opposition au premier tour. Tu vois, s'ils tombent sur Minnesota ou s'ils tombent sur les Warriors, je leur donne pas beaucoup de chance. Ouais. Après, s'ils tombent sur les Clippers ou sur Memphis. Même si je trouve qu'on les sous-cote un peu.
On a du mal, on aura une question justement sur eux. Mais
non, mais les Lakers, tout le monde l'a vu, à l'intérieur,
ouais, il n'y a plus rien.
Non, il faut déjà justement pendant l'intersaison.
Hayes est pas mal, hein, ouais, franchement. Pas mal. Mais
Hayes contre Jokic?
Ouais, mais voilà.
Bah, même contre Gobert.
Ouais. Putain, je l'attendais pas celle-là. Je suis scotché.
Ouais, j'ai pas pensé à Gobert tout de suite non plus.
Non, mais
Gobert.
Non, mais défensivement.
Ouais, défensivement.
Bah ouais, mais bon.
Tu vois ce que je veux dire. Tu les vois jouer là. C'est sympa. Doncic, il fait du Doncic, mais en play-off, ça va. Et les gens, je pense. J'espère cette année que les gens ont compris en play-off que Doncic, il faut l'empêcher de monter la balle à 2 à l'heure. Mm-hmm. Si jamais tu lui mets du rythme, même s'il dans sa montée de balle, comme
Jalen Brown, il l'avait fait. Hein, ouais. Ah oui. Il a mis un taureau dans les pattes. C'est l'autre, ça. Il n'a pas le physique quand même pour encaisser des charges pendant la condition physique pour supporter 48 minutes de montée de balle avec une sangsue sur toi. Toutes les censures sont pas Jalen Brown. Hein,
après, les jours où il met dedans, que les Brown va mettre dedans, ça va être très compliqué.
Surtout quand il ressort derrière. Mm. Je veux dire, derrière, une fois qu'il est chaud, Jokic, ça devient un casse-tête parce que derrière, il libère tous les gars.
Hein. Et ce qui est bien avec Doncic et les Brown, quand même, on peut pas dire que je les kiffe énorme, mais par contre, ils ont une intelligence défensive, c'est incroyable comment ils arrivent à guider leurs équipes en défense. Parce qu'ils sont.
C'est marrant, parce que c'est comme deux poids morts.
Oui, mais ce sont deux bons défenseurs. Non, ils jouent tout en placement.
Ouais, mais c'est pas que
Reeves, ça s'est amélioré quand même.
Il est un peu très très bon, Reeves.
En défense.
Plusieurs matchs, il a plus de 30 points de moyenne.
Il faut pas oublier qu'il y a.
En défense, je sais pas s'il a progressé par contre en défense.
Moi, j'ai trouvé un peu.
Plus en attaque, mais.
En attaque, il est régulier.
Ouais, il est super bon.
Et puis, il crée du jeu en plus.
Il y a le retour d'Hashimura là, qui va arriver.
Donc, ça va être pas mal.
Ouais, lui.
En tout cas, ils ont 3 ball-handers de fou quand même, parce qu'entre LeBron, Doncic et Reeves, c'est vrai qu'ils peuvent créer des décalages assez facilement. Ils ont une super vision du jeu, donc c'est pas mal.
Je te dis, tu vois, ça fait partie des équipes comme les Warriors, je les mets exactement au même point, qui vont pas être bonnes à prendre au premier tour. Parce qu'ils vont être en pleine forme et ils vont arriver pleine balle.
Tu m'avais fait ma transition.
Ah, je sais, je suis un ami. Alors,
question suivante, est-ce qu'il faut avoir peur des Warriors?
Oui.
Quand t'as un des meilleurs joueurs de l'histoire dans ton équipe, enfin, c'est comme LeBron, ce qu'on vient de dire avec Stephen Curry, voilà, tu peux.
Le mec, il a quand même passé son 4 millième 3 points.
Ouais, ouais. Ouais.
C'est un truc de. C'est incroyable.
Il joue avec ton téléphone. Si, il me stresse.
Non, mais c'est incroyable, le mec. Enfin,
même c'est un collectif, moi, je trouve. Les Warriors, c'est.
En fait, c'est pas mal. C'est vrai que.
Des grosses individualités, je trouve.
Le physique. Et le physique. Oui. C'est une équipe qui.
Ils ont des bons.
Moi, je reviens sur Green. Cette nuit, Green, franchement, moi, il m'a... moi je l'ai toujours dit hein, que c'était un très bon défenseur. Après, c'est une tête de con, je suis d'accord. C'est un mec imbuvable. Mais il a quand même, en défense,
et on a l'impression aussi que l'arrivée de Butler, ça l'a ressenti.
Ouais, en plus. En plus
là-dessus, sur la défense. Sur ouais.
Et Butler, pareil, il ne fait pas exprès de défendre. Franchement, il fait
j'ai l'impression que Butler, il s'efface un peu plus chez les Warriors.
Bah, il n'est plus première normal, option. Il est plus première option.
On voit qu'il n'est plus première
option. Ça lui va bien. Pour sa fin de carrière, c'est très bien, je trouve.
Ouais, par contre, la balle. Dans le vestiaire, je sais pas celui qui l'ouvre la plus quoi. Entre Draymond Green et Butler, ça doit être.
Bah pour l'instant, ils gagnent donc ça va.
Ouais, ouais c'est le jour où ça perd. Je sais pas comment ça se passe.
Ah, j'espère qu'ils font pas un trivial poursuite les deux. Ouais. La partie elle est infinie. Hein.
On passe à la conférence S qui apparaît un peu.
Là.
T'as pas fait de transition. Non, c'est vrai. Non.
Bah, un camembert. Genre un camembert bleu.
Une conférence S un peu figée. Alors quelle certitude pour les playoffs justement puisque clairement, depuis un moment, depuis le début de saison même carrément, on dit ce qui se profile quand même, c'est deux équipes qui devraient se rencontrer en finale de conférence.
Ouais, ça va.
Donc on va pas reparler de Boston et de Cleveland, même si on en parlera un petit peu à la fin. Mais New York,
ouais, New York.
Il se situe où là-dedans? Indiana se situe où? Milwaukee se situe où?
New York, ça va faire demi-finale de conf. Indiana, pour moi, ça va passer contre Milwaukee, ça va passer. New York a grand regret, je pense qu'ils vont arriver en finale, mais arriver à un moment. Enfin, ça...
Je suis même pas sûr qu'ils passent les Pistons, moi, New York.
Ouais, bon.
S'ils se tombent.
Moi, je pense que si, quand même. Et moi, je pense que.
Ça va dépendre de Jalen Brunson.
Après il faut pas que vous oubliez un truc, les mecs, hein, c'est que les Pistons, ils n'ont pas vu les playoffs depuis longtemps. C'est quand même des joueurs. Il y a quelques mecs qui ont l'expérience.
Ouais, mais la plupart, c'est des jeunes.
Mais la plupart, c'est des jeunes et tout. Et ils vont découvrir la pression des playoffs.
Ah, puis jouer au Madison Square Garden.
Ah oui, ça va être quelque chose quand même, tu vois.
Il ne faut pas oublier Tobias Harris, quand les playoffs arrivent, ça devient un fantôme.
Ah, ça, on verra ça.
Ouais.
Ça, c'est vrai qu'il y a toujours une interrogation.
Ah, bah, il y a toujours une interrogation sur Tobias.
Et il ne pourra pas faire pire qu'avec Philadelphie.
Non. Normalement,
là, il fait une bonne saison et tout. Hein. C'est bien ce qu'il fait.
Mais c'est vrai qu'on a une espèce de ventre. Je vais pas dire de ventre mou des playoffs, parce que quand t'es dans playoffs, c'est que t'es pas dans le ventre mou de la ligue. Mais ce trio New York, Indiana, Milwaukee, je sais pas pour vous, mais je les trouve très très difficiles à cerner en fait. Ouais, est-ce qu'ils peuvent upgrader un petit peu? Est-ce qu'ils peuvent monter leur niveau de jeu et aller chatouiller
Et pourtant, les Knicks, ils ont quand même 5 victoires d'avance quoi, sur les Bucks.
Non, mais moi, les Knicks, tu vois, quand ils vont jouer en demi-finale, ça va être Boston. Enfin, je pense qu'ils vont en prendre un. Tu vois, ils risquent d'en prendre un, mais ça fera la marche. Quoi. Voilà, après,
Je pense qu'Indiana, ils sont en dessous quand même des deux.
Ah ouais, toi.
Ouais, je pense.
Enfin, en dessous de qui
avis, de en dessous Boston de Milwaukee et de New York.
Ouais, d'accord,
au moins,
ok. Indiana.
Faire attention avec Indiana. L'année dernière, ils avaient exactement la même équipe et ils sont quand même arrivés en finale de conf et ils ont super bien joué en play-off.
Et ils ont bénéficié aussi des blessures de New York.
Ah ouais, c'est
Thibodeau, ça.
Ça risque de se reproduire.
Ça, c'est Thibodeau.
Vous avez vu Mikal Bridges qui a dit Thibodeau, ce serait bien que tu nous fasses souffler un petit peu.
Bah, toi, 48 minutes le lendemain. Allez, hop, t'as bien fait de l'ouvrir, toi.
Tu vas finir comme Evan Fournier, tu vas finir au bout du banc.
C'est ça.
Non, mais après, de toute façon, on ne va pas se cacher, à l'Est, tout le monde attend la finale Cleveland-Boston.
Tu vas me piquer ma dernière question.
Ok.
Alors, justement, les Pistons, l'équipe qu'on n'attendait pas vraiment, est-ce qu'ils ont un coup à jouer?
On les attendait un peu quand même, exagère pas. Les Pistons, comme tu dis, il y a zéro expérience. Mais ils vont terminer dans le top 6, donc ils vont avoir cette petite semaine où ils vont pouvoir se reposer puis regonfler un peu
les... Déjà, pas jouer le play-in, c'est bien, ouais.
Et après, ils vont jouer New York. À 80% de chance, ils vont jouer New York. Est-ce qu'ils peuvent défendre à l'intérieur sur 4? Oui, ils peuvent. Parce que Duren, il est bien
Stewart, tu vas mettre quelques temps.
D'ailleurs, la nuit prochaine, c'est quoi le petit match? C'est un petit New York Détroit.
Ouais, New York Détroit, j'ai vu.
On aura Détroit Miami aussi cette semaine.
Après, sur l'extérieur, là où il y a vraiment un sujet, c'est qui va arrêter Jalen Brunson de New York. parce qu'ils n'ont pas de défenseur dessus.
Comment il va revenir? Et oui. Comment la tournée?
Et c'est pour ça que je te dis, New York, ça va dépendre énormément de Jalen Brunson. Est-ce qu'il va revenir vraiment au top ou pas? Après, physiquement, New York, ils sont quand même.
Puis ils ont des mecs. Les Josh Hart, les Anunobi, c'est quand même des garanties.
Ils peuvent compter sur eux.
Toi, tu en penses quoi, Mathieu?
Moi, je pense que New York, c'est une bonne équipe.
Tu les vois dans le dernier carré de l'Est, obligatoirement.
Oui, sûr.
Ok.
Non, moi aussi, tu me demandes de marier ma maison entre New York et Détroit. Je vais pas être complètement débile, mais il y a un petit espoir quand même. Après, 4, des fois, ils se blessent aussi.
On passe aux Grizzlies et aux Rockets. Alors, je les ai appelés jeunes, durs et impolis. Que valent vraiment ces deux équipes que je trouve un peu jumelles à l'Ouest, non? Vous trouvez pas?
Alors, jumelles, sauf qu'il y en a une des deux qui a un meilleur coach.
Ouais.
Houston, ils ont un bien meilleur coach.
Ouais, Ime Udoka.
Taylor Jenkins, il est bon, hein, Taylor Jenkins, comme coach.
Son équipe, elle est à son image, quoi. Ime Udoka, tu sens que
c'est du dur. Hein.
C'est du dur, quoi. En défense,
Moi, je pense que Ime Udoka, il a un impact sur les matchs.
Ouais.
Tu vois, alors qu'à Memphis, c'est vraiment, ça dépend vraiment des joueurs, quoi. Et de un joueur surtout.
Ouais, oui.
Ouais, vous pensez que c'est Moren qui a les clés? Parce que Jaren Jackson, c'est le meilleur joueur de
Il a quand même du mal à revenir.
Je trouve aussi. Hein.
À enchaîner les matchs. Ouais. Parce que faire un match de temps en temps et avoir des super stats, il est fait.
Avant sa suspension, quand même. Au niveau d'avant sa suspension, de la régularité qu'il avait. Ouais.
Moi, en fait, j'allais dire qu'il comptait plus sur Morant, mais en fait, non, parce que Morant, quand il n'était pas là, il jouait très très bien.
Ouais, il jouait bien. Parce que Scottie Pippen Jr.,
ce que j'allais dire. C'est une super révélation en fait pour l'équipe. Il a combien de points de moyenne? Il doit être à
sa dizaine de points.
Mais
après, ils ont des super joueurs, hein, Memphis. Ouais. Hein, quand tu regardes entre le 5 et ce
même Desmond Bane, hein, très sous-estimé.
Desmond Bane, il est super sous-estimé. Ouais.
Un Zach Edey là, à l'intérieur.
Ouais. Ils ont ce qu'il faut, Steve Aldama.
Jaren Jackson Jr., il n'est pas revenu encore.
Ça y est, je crois qu'il est revenu.
Il est revenu.
Il me semble.
C'est pour ça que je te dis qu'à l'Ouest, dès le premier tour au niveau des playoffs,
ça va signer.
Tout le monde va être au taquet, ce qui va être un énorme avantage pour les équipes de l'Est. L'Est, attends, Boston et Cleveland, les premiers tours qui vont se taper.
Ouais, parce que c'est vrai que la fin des qualifiés de l'Est, c'est quand même. Les Bulls sont toujours là.
J'ai même pas voulu en parler, les gars, parce que clairement, les gars qui vont sortir du play-in, que ce soit
Atlanta et Orlando,
les Bulls,
Miami.
Les Bulls.
À la limite, Orlando fait plus peur parce que, quand même, ce qu'ils ont fait en début de saison, ça s'est un peu cassé avec les blessures.
C'est plus pareil en fait. Je trouve.
Il y a une petite cassure quoi.
Ils ont perdu leur
Je sais pas si c'est depuis qu'il est plus là ou c'est depuis que. Depuis quelques temps, juste. Je pense pas que Suggs c'est celui qui leur a le plus apporté. Je pense que.
Wagner. Ils ont retrouvé quand même Wagner et Banchero depuis un petit moment maintenant.
Oui, Banchero, c'est pareil, il a été décevant.
Ça a du mal à se remettre.
Je pense que Orlando, s'ils ont le choix, il ne faut pas qu'ils aillent sur Boston. Il faut qu'ils aillent sur Cleveland.
En plus, ils ont
vraiment qu'ils les jouent et ils les battent régulièrement. Mmh. Ils ont une équipe qui, je sais pas, tu sais, des fois tu bats des gens tout le temps, tu sais pas pourquoi.
On avance, les gars, avec la dernière question, en fait, qui est une double question. Peut-on échapper à une finale OKC-Boston? Mais surtout, a-t-on vraiment envie d'échapper à une finale OKC-Boston? Voilà. Et donc, en fait, la troisième question qui est sous-jacente là-dessous, c'est Cleveland est-il injustement snobé?
Injustement.
On pose tout ce débat. Voilà.
Déjà, ils peuvent atteindre 70 victoires quand même. Enfin, faut pas oublier que c'est quand même des saisons historiques qui nous font là, OKC et les Cavs.
Ouais, parce que du coup, OKC ne doivent plus être très loin des Cavs là, au classement.
Là, il y a 68 matchs joués. Donc, il y en a 82. Ils ont 56 wins.
Ça va être tendu d'arriver. C'est dans deux défaites. Les Cavs, ils ne sont pas dans une.
Ils sont pareils des deux côtés. 56-12. 56-12.
Donc tu vois, en fait, OKC, ils peuvent peut-être avoir l'avantage du terrain pour tous les playoffs. Hein. Surtout vu comment ça se profile sur la fin de saison. Cleveland marque un peu le pas, je trouve. Ouais. C'est pas très rassurant quand même d'avoir une équipe qui commence une. Alors. Ça fait que deux défaites, hein. On va pas.
Oui, ah, mais ils jouent pas bien.
C'est le victoire que deux défaites.
C'est l'enchaînement.
Sortez de 16 victoires consécutives.
Oui, on aurait fait l'émission la semaine dernière.
On n'aurait pas dit ça.
Les caves de ouf. Les caves de ouf.
Girouette. Ouais. Bon, en tout cas, la finale Boston-OKC. Je me souviens quand j'ai fait le premier visu de l'émission. Cette année, en fait, que j'ai pas mis, mais c'était Tatum face à Shai Gilgeous-Alexander. Et finalement.
Non, mais moi, en fait, si tu veux, c'est même pas à l'Est que ça me fait peur, c'est à l'Ouest.
Oui, parce que tu dis que ça va être
difficile d'y arriver. Non, mais. OK, ici, si tu veux, on les veut tous en finale. Leur jeu, il est super agréable. Ils ont un monstre extérieur. Ils ont tout pour y aller. Mais c'est OK ici, quoi.
C'est
tu te dis que
dur.
La dernière marche, l'année dernière, ils sont plantés. Là, à la Cup, ils ont raté la dernière marche. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir y aller cette année et faire une finale NBA.
Ouais, moi, j'irais bien aussi. Ben, c'est dans la progression logique, à mon avis.
Il y a toujours des défaites inattendues. Dans les playoffs, il y a toujours des surprises. Il se passe toujours.
Et sur des chocs, ce qu'on appelle
des chocs. Moi, je fais grosse alerte. Si le premier tour, c'est Minnesota OKC, ah, ça va envoyer du bois.
Ouais. On a hâte de voir ça. Écoutez toujours Money Time pour la fin de l'émission, alors que l'équipe de c'est Diggers Réunion, là, ça vient de débouler en force dans le studio, ils ont tout cassé, des vrais brutasses. Pardon, j'ai merdé un peu aux manettes. On va conclure l'émission par notre traditionnel buzzer beater, si vous voulez bien. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three, and it's good at the buzzer. Damian Lillard, are you kidding me? Messieurs, pour conclure cette émission, je vous propose comme buzzer beater la thématique du jour. Nikola Jokic versus Shai Gilgeous-Alexander, le duel final pour le titre de MVP. Qui mérite le trophée? Pour quelles raisons? Les stats doivent-elles parler? Le cœur doit-il trancher, messieurs?
L'amour est-il à l'aveugle?
On fait chacun notre tour.
Ouais. Dis-moi ce que tu
penses. Allez, vas-y, pensez. Ouais. Commence.
Allez, lance-toi.
C'est dur, mais il va falloir trancher. Il n'y aura qu'un MVP, a priori.
Alors moi, pour moi, je pense que celui qui le mérite, c'est Shai.
Les deux. Celui qui le mérite, c'est les deux.
Ouais, les deux le méritent. D'accord. Mais moi, celui qui...
À qui on doit le donner.
À qui on devrait le donner, c'est Shai Gilgeous-Alexander.
Pour quelle raison?
Parce que, tout simplement parce que Jokic, il en a déjà eu combien?
Ah non.
Ça, c'est pas une...
Ça, c'est pas une raison.
Mais laissez-le parler, ce petit.
Ça fait partie des raisons.
T'as raison.
Ça fait partie des raisons.
Ouais.
Je sais que Jokic, il vrai, mérite tout autant que Shai. Ouais. Mais je pense que là, je crois qu'on se rend pas compte de la saison de fou qu'il fait avec OKC. C'est une équipe de scoreurs et il arrive à marquer plus de 30 points, 30 points par...
33, exactement.
33 points par match. C'est énorme. Ouais.
Son équipe est quand même en tête de la ligue.
Ouais, donc
à l'heure actuelle, au moment où on parle, ils sont en tête avec les Cleveland Cavaliers.
Ouais, donc ils portent quand même son équipe aussi. Et puis je pense que, pour moi, Shai il le mérite plus.
D'accord.
Sa série aussi de matchs à 20 points.
Plus de 20 points consécutifs. Ouais. Hein. Il est en train d'attaquer celui de Kevin Durant. Je crois que c'est Kevin
Durant. Il y a Anthony Edwards qui avait parlé en conférence de presse, qui avait dit que c'était Shai Gilgeous-Alexander, c'était le joueur le plus fort contre qui il avait joué cette saison.
Bah, il fait une saison énorme. Puis même les résultats collectifs, en général, il y a aussi ça. Enfin, le most valuable player, c'est ça. Enfin, c'est aussi.
C'est l'impact que tu as sur ton équipe.
Voilà.
Parce que tu les rends meilleurs.
Voilà.
Mais du coup, si tu prends cette
défi. Exactement. Voilà. Moi, je suis d'accord à ce que je vais être sur Jokic.
Ah, oui.
Bien évidemment. Déjà, tu mets les stats. Tu regardes que les stats. Tu mets pas les noms. Et tu les donnes à tout le monde.
Ouais.
À 10 fois sur 10, les gens vont choisir Jokic. Mais sans savoir. Par contre, il y a un truc. Moi, je dis Jokic, mais il faut qu'il termine deuxième ou troisième de la conférence. Parce que ça va dépendre de leur position. S'il descend en dessous.
Ce sera
je pense que Shai le méritera.
L'année où Westbrook est MVP, c'est parce qu'il est en une saison en triple-double.
Oui.
Alors, c'est difficile l'argument de dire je ne le donne pas à Jokic.
Oui, mais alors, l'année où Westbrook est en triple-double, enfin, une des années où la titre de MVP est en triple-double, il faut avoir conscience que le Thunder est annoncé à la ramasse totale.
Ouais.
En fait, il est qualifié en play-off, si je ne dis pas de bêtises, alors que tout le monde les attendait vraiment.
Et le résultat collectif, il n'est pas énorme. Je ne sais pas s'il finit 6 ou 7e, mais...
Non, mais pour revenir sur Jokic, moi aussi, il y a un truc qui est incontestable, c'est l'impact qu'il a sur ses coéquipiers.
Ah oui.
Bah, ils savent très bien, les gars, ils courent, ils coupent. Quand tu vois Gordon, il va couper ligne de fond. Ils savent que la balle, elle va arriver. C'est un sacré scoreur. Il est grand, il prend des rebonds. Mais en plus, c'est un mec qui a des mains incroyables.
Il fait des passes, c'est pas...
Le mec, il remonte la balle, il revient en défense. Et c'est un sacré défenseur. Hein.
Eh ben, alors justement, tiens, je vous donne les stats de Jokic. Cette année, Jokic, c'est 29,1 points de moyenne. Troisième meilleur scoreur de la Ligue. On l'attendait pas à ce niveau-là.
Hein. Ah non,
il est en triple-double.
En rebond, 12,8, c'est le troisième. En passe, 10,3, c'est le deuxième.
C'est fou.
Deuxième pour un pivot.
C'est un truc de fou.
Ensuite, en interception... 1,8, quatrième.
Et le pourcentage.
En contre, 0,7. Et alors, il n'est pas classé.
Le pourcentage.
Et au shoot, 57,5, c'est le neuvième. Et si tu regardes son pourcentage à 3 points, il fait partie des 20 meilleurs shooters à 3 points de la Ligue.
Alors que c'est un pivot.
Alors, non, mais là, tout est dit. C'est... Tu ne peux pas faire plus fort statistiquement que...
Sur les chiffres,
je crois qu'on n'a jamais vu ça.
Non, mais ouais.
Jamais vu ça.
Mais
moi, j'ai rarement été partagé comme ça sur un MVP. Parce que Shai, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, depuis le temps que je regarde le basket, c'est le mec quand même qui se rapproche le plus de Michael Jordan.
Exactement, la mi-distance.
Je sais bien qu'il faut...
Ouais, non, jamais, je
ne suis pas dans les comparaisons, mais c'est le gars qui sait se créer son shoot et qui va s'arrêter.
Ouais. Bah, Kobe savait le faire aussi.
Sur les loups.
Pour moi, Kobe, en termes de jeu, c'est celui qui sait plus... De mentalité...
Quel copier le plus, Jordan?
Mais moi, je vois pas de similitude, c'est marrant. Parce que
moi, je te parle des joueurs actuels, quoi. Tu vois, c'est
pas... Ouais, mais je vois pas de similitude dans le jeu avec Jordan.
Le tir à mi-distance...
Le jump. le la défense, la capacité à rester en l'air.
Jordan était beaucoup plus gracieux que Shai Gilgeous-Alexander.
Moi, je trouve qu'il est joli quand même.
Il a grâce à leur impressionnant.
Il est quand même beau.
Non, mais alors, je vais le dire clairement. Moi, en début de saison, j'étais pas trop fan de Shai Gilgeous-Alexander. Il fait des stats et tout ça. Hein. T'es d'accord, hein, Mathéo? Je le disais. Hein.
Ouais, tu le sais.
Mais là, maintenant, j'assume totalement que c'est un joueur incroyable. 33 points de moyenne. Sacre bon, 6,2 passes, donc pour meilleur marqueur, 14e meilleur scoreur, 3e meilleur intercepteur aussi, parce que vous l'avez dit, c'est un super défenseur, avec un compte de moyenne pour un arrière, ce qui est très très rare, avec un pourcentage de chute de 52,6. Ouais,
et lui, c'est énorme.
C'est un extérieur, lui. Ouais. Donc tu vois, je peux dire, lui aussi, il joue à l'intérieur. Ouais.
Et à 33 points. 33 points de moyenne par match.
Ouais, donc c'est quand même fou. Et c'est le joueur qui marque le plus de lancers francs par match avec une moyenne de 8,1.
Moi, le seul bémol que je mettrais sur Shai, je vais me répéter, mais c'est sa capacité à gérer la pression dans les gros matchs. Il l'a prouvé cet été avec les JO.
Avec le Canada, il s'est planté.
Il s'est planté à la finale de la Cup. Et l'année dernière, en play-off contre Dallas, il ne prend pas les choses en main. Donc moi, j'attends vraiment... C'est pour ça que je veux OKC en NBA. Parce que je veux vraiment qu'il prenne cette équipe en main et qu'il aille jusqu'en finale et qu'il montre que c'est lui le patron. En fait.
Mais pour terminer, regarde, l'année dernière, on disait à ce qui manque à Shai Gilgeous-Alexander, c'est la capacité à foutre 50 points dans un match, à plier le match, etc. Regarde la deuxième partie de saison, là, il le fait. Il le fait régulièrement. Et dans les moments clutch, il y a eu quelques matchs que j'ai regardé, où le match est serré, il prend feu total et l'écart finit à 20 points alors que, tu vois, c'était mal embarqué. Donc je pense que de toute façon, on est d'accord, le mec qui sera nommé MVP le méritera.
Il le méritera et l'autre
sera frustré. Enfin, frustré, je sais pas.
Oh, s'il y en a un des deux qui l'a pas, et si Jokic il l'a pas, il sera pas.
Ouais, lui, parce que lui, il regarde.
L'année dernière, quand il est pas MVP, il est MVP.
Voilà, l'année d'Embiid, c'est ça. Ouais. L'année d'Embiid, il est.
Quel vol.
Il a forcément titre, en fait.
Quand tu vois.
Il y aura quelque chose, forcément, il s'illustre.
Mais moi, j'aimerais pas être à la place de ceux qui vont voter. Parce que c'est quand même pas.
Ah, moi, je vote facilement. Moi, je te dis, je le donne à Jokic. Il y a pas de. Moi, je te dis, parce que je considère que l'impact qu'il a sur son équipe est plus important que celui de Shai.
Bah oui, mais bon, le score final, il est à 56 victoires, 12 défaites pour OKC, quoi. Donc l'impact.
Oui, mais est-ce qu'il n'est pas mieux entouré?
Oui.
Est-ce que ses joueurs autour, voilà. Aussi. Parce que Jamal Murray, merci, il est gentil, quoi. C'est lui la deuxième option. Et le mec, il se réveille là depuis 5 matchs, mais toute la saison, il a tiré à côté, quoi.
Tu voulais dire quoi?
Jokic, encore une fois, dans pas longtemps, ça va devenir le meilleur joueur de tous les temps, enfin. Tu vois pas, tu regarderas tous ces
titres. Alors là, attention, tu vas faire.
Bah non, mais regarde.
Il gagne un peu plus.
Il aurait 3 titres de MVP.
Ouais, le meilleur pivot. Moi, je suis d'accord.
Pour moi, c'est peut-être déjà.
C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, toi, tu disais que c'était Olajuwon et qu'il ne pouvait pas le gratter. Hein. Mais là, maintenant.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à l'époque d'Olajuwon, il n'y avait pas meilleur qu'Olajuwon.
Oui, c'est vrai.
Mais on ne le met pas dans.
Ah non, non.
Il y en a beaucoup qui le mettent. En fait, plus dominant.
Parce qu'il a une grande gueule et qu'il est présent.
Il a du physique. Et puis il a du physique en plus.
Et puis Shaq, il a dominé surtout la ligue une fois que les grands pivots étaient partis, quoi. Non? Une fois que Robinson, Olajuwon et Wing n'étaient plus là. Ouais, il y avait Yao Ming, mais Yao Ming, pour moi, ça n'a jamais été un très...
Non, il était bon quand même.
Bah, il était bon, c'est pas ça, mais il a fait quoi, 3 bonnes saisons. Yao Ming a une carrière très très courte. Tu peux pas le comparer, il n'a rien gagné, voilà, c'était un...
Shaq, il fait partie des très bons joueurs, il n'y a pas photo là-dessus. Ouais. Après, tu fais all-time, des années 90 à aujourd'hui, tu fais un classement all-time des pivots. Enfin, moi, pour moi, O'Neal, il n'est pas dans les 3 premiers. Mais après, c'est mon avis à moi.
C'est une perception qu'on a. Ça dépend des époques aussi. Puis il ne faut pas oublier un truc. Hein. C'est qu'on a tendance, surtout maintenant, tu vois, sur les réseaux sociaux, à dire le GOAT, c'est lui, c'est un tel, etc. Ouais. Déjà, comment tu peux comparer un mec qui joue pivot avec un mec qui joue meneur?
On ne compare pas les postes.
Tu ne peux pas comparer. Puis deuxième chose, je voulais faire une remarque aussi sur. C'est un truc qui me gave, que tu vois beaucoup. Les mecs qui sont en train de critiquer LeBron James, toujours en train de le comparer à Jordan. Mais LeBron James n'a jamais dit qu'il était meilleur que Jordan. Hein. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein.
Il a dit qu'il était le king.
Il a dit qu'il était le king, bah, pourquoi pas.
Bah ouais.
L'autre, c'est...
C'est un dieu.
C'est Dieu.
J'aime pas dire ça, mais c'est une légende absolue. Mais je trouve que comparer LeBron James... En plus, t'as toujours l'impression qu'il... Ouais, regarde, lui, il a 6 titres en 6 finales, alors que lui, il a 40 ans, le
il
mec.
40 ans, il est encore dans la course.
Il est encore dans la course, il fait des stats de malade. Mmh. Il a gagné quand même 4 titres, ce qui n'est pas rien.
Non, faut pas sous-estimer.
En fait, en ce moment, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont en train de comparer tout
des
le temps LeBron et Jordan.
Puis LeBron, il a tous les records, de toute façon. Arrive à un moment.
Donc, à un moment, respect pour les mecs. Arrêtez de faire des petites guéguerres à la con sur les débats qui ont
créé,
pas lieu.
Il est sur le podium des meilleurs joueurs.
Tu peux pas dire que le troisième, c'est une merde quand même.
Comme un mec comme Kevin Durant, c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire. Harden aussi.
C'était le coup de gueule de la fin. Ok.
Chaud. Mais alors, du coup, Jokic alors.
Alors, qui est MVP finalement?
Chacun va voter. Vas-y, c'est parti. Bruno, tu commences.
Jokic quand même. Jokic.
Shai.
Jokic.
Et moi, je vais dire Shai.
Donc, on est dans la merde.
Ah, statu quo. Voilà.
Comme, comme les votants.
Okay. Mais au poids, on gagne.
Mais... non, mais t'avais raison sur un truc très, très juste. À partir du moment où Denver va se décrocher...
Ouais, s'il décroche
S'il décroche, il dévisse, tu pourras
puis,
pas...
Et puis, tu vois, le fait qu'il ait déjà eu le titre, ça, c'est à son désavantage, finalement.
Ouais.
Parce que...
Comme Jordan, hein. Jordan, il méritait pendant
6 ans. Et c'est pas... Normalement, ça devrait pas être un argument, quoi. Ça devrait pas...
D'ailleurs, ça va effacer Jordan.
Le problème, c'est que là, cette année, il fait sa meilleure saison. Et on ne va pas lui donner où il fait sa meilleure saison.
C'est ça la contradiction.
On lui a donné 3 ans.
Ouais, on est d'accord. Messieurs, il est l'heure de se dire au revoir. Je ne vous dis pas à bientôt. Non, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura une émission. La prochaine émission, habituellement, c'est premier mercredi de chaque mois et troisième. Il risque d'avoir... du rififi, donc je vous le dis, surveillez Facebook, on vous le dira de toute façon pour
on se retrouve en playoff quoi.
On risque bien de se retrouver en playoff. Voilà, ok.
Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi.
Alors vas-y, dis-le. Ouais.
Ah, parce qu'aujourd'hui on va lancer la chaîne YouTube du coup de l'émission. Et puis donc voilà, là on tourne la vidéo, puis on la postera demain. Donc abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires.
Super, merci Mathéo en tout cas pour ton implication, c'était cool de t'avoir avec nous.
Merci
Mehdi, merci Bruno, c'est toujours une joie de vous voir. J'ai mon cœur qui est... j'ai les larmes aux yeux.
À demain soir quoi du coup.
Plaisir d'offrir, joie de recevoir.
Exactement. Et puis vous avez une dédicace à faire, on dit au revoir tout le monde. Ciao.
Bon anniversaire à tous les gens du mois de mars là. Je m'inclus dans le.
Ouais,
et puis il y a monsieur, il n'y a pas Trailey aussi qui fête un anniversaire.
Ah ouais, et bientôt c'est une maman aussi. Donc on fait un bisou à maman. Ciao! Salut tout le monde!
Salut les potos!
Salut!